La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonjour à tous.
Bonsoir.
Est-ce que tu as un surnom ?
Curieusement, non.
Ça, c'est ce que tu crois. Moi aussi, je crois que je n'ai pas de surnom, mais je suis sûr que quelque part, il doit se passer des choses.
C'est vrai que parfois, les surnoms, on les dit derrière le dos des gens.
Oui, mais aujourd'hui, nous allons consacrer une émission à quelques personnages ayant reçu des surnoms qui sont devenus, finalement, le mot qui les désigne.
Et qu'ils ont accepté avec grand plaisir, en général.
Ou généralement, c'est un surnom qui leur faisait honneur, quoique... Et naturellement, les surnoms se groupent par thème, finalement. Et nous allons commencer par la famille. Dans la famille, il y a papa, maman et les petits-enfants. Et naturellement, papa, chez les musiciens américains, ça se dit Pops.
Et vraiment, celui qui a porté ce nom-là avec le plus grand bonheur, d'autant plus que justement lui-même n'avait pas de père...
Ben c'était Louis Armstrong, car le bon public dit toujours Satchmo, Satch, lui-même sur scène disait ça, mais chez les musiciens de jazz, tout le monde l'appelait Pops.
Oui.
Nous en France, on l'appelle Louis quand un musicien rencontre un autre et qui parle de Louis, c'est pas Louis XI ou Louis XIV, hein, c'est Louis Armstrong, le seul, l'unique, le vrai.
C'est là qu'on reconnaît les initiés qui parlent entre initiés.
Exactement. Et bien ce cher Louis... Ou ce cher Pops va maintenant nous jouer à la tête de son fameux Hot Five, celui qui a finalement donné son langage au jazz dans les années 20. Ils vont nous jouer un morceau assez étonnant qui s'appelle...
Cornet Chop Suey. Vous avez entendu, c'était Cornet Chop Suey, on vous l'a dit. Mais Cornet, d'accord, mais Chop Suey, c'est quoi ?
bien dans l'argot de l'époque, ça voulait dire faire le fou. Donc c'est le cornet qui fait le fou, ce morceau. C'est exactement ce que ça veut dire. Mais c'est parallèle à des plats de restaurants chinois. C'est assez amusant l'argot des musiciens, parce que le bœuf, par exemple... L'origine de ce mot...
C'est peut-être qu'on partageait des morceaux de bœuf, enfin, non, c'est pas du tout, non.
Ça vient du bœuf sur le toit, où les premières jam sessions ont lieu en France, avec Jean Cocteau à la batterie.
Mon Dieu.
Et voilà, et Cornel Chauve-Souris, c'est un truc qui leur est passé par la tête. Et je peux te dire que l'introduction de ce morceau, c'est une sorte de rite initiatique. Quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, mais qui aime le jazz, ou qui dit qu'il arrive pour en écouter, et que tu lui fais pas là, et s'il te répond pas,
c'est qu'il fait pas partie de la famille.
C'est pas la peine. Alors nous avons du Pops, mais il y a un autre papa chez les jazzmen. Celui-là, il s'appelle...
Fada.
Fada.
Fada, ça vient bien sûr de Father.
Father, exactement.
C'est un tout petit peu moins familier que Pops.
Oui, mais Pops était déjà pris.
Oui, voilà.
Et en plus, chez les pianistes, on a un petit cant à soi. Donc, on a appelé Fada. Et là, il s'agit du père de la plupart des pianistes. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Il s'appelle...
Earl Hines. Il faut s'imaginer que ça lui va très très bien. Parce que c'est un grand type superbe. Et beaucoup d'allure.
C'est un type qui avait une classe absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, ça se sent dans son jeu de piano. C'est un magnifique pianiste. Son influence dans le jazz est absolument énorme. On pourrait même dire prépondérante, finalement. Mais il ne détestait pas l'autodérision. Puisqu'un jour, en essayant de trouver un titre à un morceau qui venait de jouer, parce que tu sais, tu enregistres, et puis après, les types te disent « ça s'appelle comment ?»« Ah ben, je sais pas !»
Voilà, je l'ai composé. « Ah, tiens, je vais appeler ça comment ?»
Et puis, il a pensé à une bouteille de ketchup. Tu sais que c'est la marque Heinz. Alors, Heinz, c'est pas le même orthographe, mais c'est Heinz. Sur les étiquettes des produits de la marque Heinz, il y avait marqué qu'ils en faisaient 57 sortes différentes.
57 varieties.
C'est ce qu'il avait écrit. Et donc, le morceau a été baptisé du tac au tac, 57 varieties. Thank you.
Ce morceau-là du très savant Earlines, mais il revient un peu aux sources parce qu'on dirait que c'est du rag.
Ah, c'est le rag.
Ouais.
Le rag, c'est une trame harmonique de 32 mesures qui est très utilisée dans la musique d'ailleurs, parce que on le retrouve aussi bien en chanson française. C'est magnifique, tu sais, ce morceau.
Ouais.
Les flots bleus, c'est le rag, c'est la même grille.
Il ne faut pas oublier que le rag, c'était au départ, au tout départ, des esclaves doués pour la musique qui jouaient les morceaux que leur maître leur imposait. Ils avaient appris le piano comme ça.
Oui, oui, et c'est une grille, au départ, européenne. On l'appelle le rag parce que le prototype de ça, c'est le dernier thème de Tiger Rag, en fait. C'est pour ça que chez les musiciens, on appelle ça le rag. Les jazzmen aiment beaucoup improviser sur le rag, en fait. Et donc, on le retrouve aussi bien là qu'avec Armstrong, qu'avec Django Reinhardt, que dans tout un tas de cas.
C'est vrai que c'est très tonique.
Alors, puisqu'on parlait des choses très utilisées, après le rag, voici le blues, naturellement. Et après les papas.
Les mamans.
La maman. Alors, la maman.
Oui, c'est vrai que la maman dont on va parler, elle a un air de maman.
Ah, une maman, c'est une jolie petite femme, en fait. D'ailleurs, il y a des morceaux dont les titres sont éloquents là-dessus. Mais elle s'appelait pas Mama, elle s'appelait Ma, et son homme s'appelait pas Rainer. C'était un couple de musiciens qui se produisaient sous chapiteau avec un très bon orchestre, et elle chantait le blues. Et quand tu vois les photos de Ma Rainer, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, qui sont éloquentes, tu te rends compte qu'elle était très, très maternelle comme image.
Ah oui, 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 c'était une solide dame. Hein.
C'est elle qui a dit « Je parle parce que je suis têtu et je chante parce que je suis libre ». C'est un truc à ne pas oublier non plus. Ça.
Ouais, c'est vrai que quand on sait d'où venaient la plupart des gens de l'esclavage, entre autres.
Ah oui, parce que là, on n'était pas très loin dans le temps.
Hein. Le mot « liberté » avait un sens très, très, très puissant.
C'est elle qui a appris à chanter à Bessie Smith, mais personne ne sait qui a appris à chanter à Ma Rainer. Alors là, voilà, avec un des meilleurs petits orchestres avec lequel elle est enregistrée, qui était celui de Lovie Austin, qui s'appelait les Blues Serenaders, et le trompettiste de ce petit orchestre s'appelait Tommy Lanier, c'était un merveilleux musicien pour jouer le blues également, et ça s'appelle
Barrel House Blues. Alors, Barrel House,
ben, le Barrel House, c'est une espèce de baraque faite avec des bouts de tonneaux de récupération, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, qui se trouve au bord des petites rivières et où les Noirs de l'époque avaient l'habitude de se retrouver pour danser, chanter et faire la fête ensemble.
Et oui, ça coûtait pas cher hein, de rentrer là.
On peut signaler qu'il y a un très bel exemple de Barrel House dans le film Color Pourpre.
Couleur pourpre.
Ouais, de Spielberg. Barrel House Blues.
Thank you.
Après la maman et les papas, eh bien, il y a les enfants.
Le kid.
Voilà, c'est tous ceux qui s'appellent kid. Il y en a quand même pas mal, surtout la Nouvelle-Orléans, parce que finalement, on se rend compte qu'au début du jazz, les gens commençaient à jouer de la musique quand ils étaient enfants.
Très jeune, très très jeune. D'ailleurs, Louis Armstrong lui-même, bon, lui, il était intégré dans un espace puisqu'il avait été en maison de correction et que c'est là qu'il avait appris la trompette. Mais c'était des orchestres d'enfants, hein, pratiquement.
Oui, d'ailleurs, avant, quand il avait 8-9 ans, avec d'autres lascars de son acabit, ils étaient chanteurs de rue.
Oui, pour gagner un peu de sous, quoi.
Ouais, ils étaient quatre. Hein, c'est... Alors là, nous avons Kid Rena, Kid Thomas, Kid tout ce qu'on voudra, Kid Howard. Et nous avons le plus célèbre des Kids, naturellement, dans le jazz, il s'appelle...
Kid Ory.
Kid Ory.
Et c'est amusant parce que il a vécu assez vieux et donc toujours avec ce surnom de gamin quoi.
Oui, oui, oui.
On l'appelait hé, gamin.
Oui, il joue encore du trombone, il s'est retiré à Hawaï, à un âge vraiment avancé, et joue encore du trombone à 80 ans passés.
On raconte de lui qu'il était arrivé tout gamino pour proposer ses services comme banjo. Mais son banjo, vous savez, c'était fait... Avec une boîte de cigares, dites donc.
Oui, boîte de cigares, un manche vissé dessus et du fil de fer comme corde. Eh bien, il arrivait à jouer avec ça. Il a été un peu batteur et puis quand il a commencé à vouloir vraiment faire quelque chose, c'est un leader qui dorait aussi, c'est un type important. Il a loué une... Il est vraiment très jeune. Il a loué une voiture. Il a écrit dessus, si vous voulez de la musique, téléphonez à tel numéro. Il a commencé à crouler sous les demandes. Il a très vite eu le meilleur orchestre de la ville. Où King Oliver jouait du cornet. C'était l'orchestre Ory Oliver qui restait une légende.
C'était un malin qui avait le sens des affaires. Hein.
Alors il a composé quelques morceaux très intéressants, comme le fameux Muskrat Ramble que tout le monde connaît. Un morceau un peu moins connu s'appelle Savoy Blues. C'est un très beau morceau. Alors on va naturellement laisser à Kid Ory lui-même le soin de le jouer à la tête de son orchestre, qui était un formidable orchestre dans les années 50, avec un batteur. On ne peut pas faire plus Nouvelle-Orléans que ce batteur-là. Il s'appelait Minor Hall. Vous pouvez écouter le trombone. C'est le roi du trombone Nouvelle-Orléans, Kid Ory.
Savoy Blues. quand on entend ça, on se dit que c'est vraiment l'héritier des parades de la Nouvelle-Orléans.
Ah, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. La quintessence de Nouvelle-Orléans, c'est l'orchestre de Kidori.
On sent un peu le type qui marche en jouant. C'est... Oui.
Et puis on sent qu'il ne se presse pas, mais qu'il n'est pas non plus un lambin. C'est un tempo assis. De toute façon, Kidori accordait une énorme importance à la qualité de la section rythmique, et là, ça s'entend. C'est une... Les rythmiques de Kidori l'ont placé au-dessus de tout le monde dans ce genre de musique. Et maintenant, avec toute cette famille et tous ces enfants, il faut bien quelqu'un pour venir les soigner quand ils sont malades. Voici le médecin de famille.
Le doc.
Le doc. Et il y a plusieurs types qui sont appelés doc dans le jazz, mais en fait, quand on dit doc, c'est évidemment de Doc Shitham qu'il s'agit. Alors lui, il a été une sorte de grand-père de tout le monde à une époque de sa vie, à la dernière époque de sa vie, parce qu'il jouait encore à 92 ans. Il est mort pratiquement sur scène à New York, à cet âge-là. Et on a donc profité de Doc, qui venait pratiquement chaque été en France, pour l'écouter parler, parce qu'il racontait aussi très bien des souvenirs très intéressants, et puis l'écouter jouer. C'était un merveilleux trompette et chanteur. C'était le grand-père. C'était un grand-père hein, aussi.
Au fond, la notion de doc, vu comme ça, c'est quelqu'un qui sait des choses. Et pas vraiment la notion de médecin. C'est plutôt... Vous savez, il y a une expression en France, on dit docteur. C'est celui qui sait.
Il sait, exactement. Il savait d'ailleurs tellement qu'il était considéré par tout le monde comme le meilleur premier trompette pour un big band qui soit. Mais il y a un petit côté quand même doctoral médecin dans cette histoire, parce que Doc avait la réputation de se soigner lui-même. Et en fait, il se portait comme le pont neuf. Hein. J'ai jamais vu cet homme-là malade ou quoi que ce soit. C'était...
Bah, apparemment, ça lui a réussi, parce qu'il a quand même vécu très vieux.
Oui, oui. Alors, c'était un homme qui avait du sang séminole. Il était mi-indien, mi-noir, en fait, Doc Shitham.
C'est vrai que dans toute la civilisation indienne qu'on a découvert beaucoup, beaucoup plus tard, indienne d'Amérique du Nord, naturellement, on s'est aperçu que c'était des gens qui étaient extrêmement proches de la nature, qui se soignaient avec des plantes et des habitudes extrêmement proches, on peut dire, d'une réflexion universelle sur comment se soigner avec la nature.
Il était assez comme ça, avec un physique incroyable de coureur de prairies. Et là, nous allons entendre un morceau qui illustre son côté à la fois docte et grand-père. Il joue et il chante, et on a l'impression qu'il raconte une histoire dans les deux cas. Et quand il joue, et quand il chante. Et c'est une histoire toute simple, c'est un morceau de James P. Johnson qui s'appelle...
If I could be with you, si je pouvais être avec vous.
Rien qu'une heure ce soir.
Don't know what to do. All night long I seem to dream of you. I did wrong when I let you go away. Now I miss you more each night and day. I'll be happy if I had you by my side. I'll be happy if you say you'll be my bride. If I could be with you 1 hour tonight and free to do all the things that I might. I want you to know, ba 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 ba, you will. until I told you that I love you so. If I could be with you, I'd love you long. If I could be with you, I'd love you strong. I'm telling you true, I'd be anything but blue if I could be with you just 1 hour. If I could be with you.
C'était un homme qui avait commencé très jeune et il avait commencé justement avec les chanteuses de blues dont on parlait tout à l'heure sous les chapiteaux. Et moi, il m'a appris à jouer sous un chapiteau sans micro.
Impressionnant ça.
Ouais. Si un jour vous vous trouvez à être obligé de jouer de la trompette dans un chapiteau très grand, vous pourrez vous passer du micro, vous me passez un coup de fil.
On vous dira le secret, mais...
C'est une technique qui dérive directement des confessionnaux pour lépreux du Moyen-Âge. Je n'en dis pas plus. Et maintenant, eh bien, il y a les amis de la famille, et particulièrement ceux qu'on remarque en raison soit de leur grande taille, soit de leur épaisseur.
Eh oui, on ne voit qu'eux.
On ne voit qu'eux quand ils sont là, exactement. Alors le premier cas, celui de la grande taille et de la force, du physique herculéen, on les appelle...
Big.
Big.
C'est pas dur, hein, ça. Ça veut dire grand, costaud, fort. Voilà.
D'ailleurs, Big a été le surnom de pas mal de boxeurs. Et le Big qui nous intéresse, là, il s'appelait Sidney Catlett. Et son surnom, c'était...
Big Sid.
Big Sid. C'était un batteur, c'est certainement un des plus grands. Il avait une telle force dans les bras qu'il était capable de soulever quelqu'un et de le faire passer par-dessus la tête d'un autre à bout de bras pour le reposer derrière. C'est-à-dire qu'il pouvait mettre de l'ordre dans les files d'attente, par exemple.
Ouais, une pauvre petite créature.
Il était célèbre aussi parce qu'il était, comme Lionel Hampton, capable de jongler avec les baguettes de manière assez extraordinaire en jouant. Il y a des photos là-dessus, tout à fait étonnantes. Et là, il est le batteur d'un orchestre constitué un peu fugitivement en 1944 par James P. Johnson, le pianiste. Et en 1944, on est en plein effort de guerre. Cet effort de guerre, il était naturellement soutenu par tout le monde, par les artistes, et pourquoi pas par les jazzmen. C'est pourquoi le morceau qu'on va entendre, et où nous attirons l'attention de l'auditeur sur la qualité et le swing du jeu du batteur Sidney Catlett, ça s'appelle...
Victory Stride.
L'enjambée vers la victoire, madame. Thank you. Vous avez eu le grand, maintenant vous allez avoir...
Le gros
Fats.
Oui, il méritait son nom. Alors là, on pense immédiatement à Fats Waller, évidemment.
Aucun doute. 1m80, 140 ou 150 kilos.
Peste, oui.
C'était un monument.
Il y a quelqu'un qui a parlé de ses déjeuners, petits déjeuners.
Terrifiant, terrifiant. Non, là, c'était incroyable.
5 ou 6 œufs durs.
Plusieurs côtelettes. Non, il vaut mieux pas s'attarder sur la diététique de Fats Waller parce que ça l'a quand même mené à une mort prématurée.
Oui, c'est vrai.
Et Fats Waller avait une très grande importance pour la jeune génération européenne d'avant-guerre. Et je me rappelle une réflexion de mon père qui m'a dit un jour, pour nous la guerre, ça a aussi été que Fats est mort et qu'on l'a pas su.
Ouais.
Mais quand même, comme c'était en décembre 43, nous on peut dire que quand nous sommes nés, Fats était encore vivant.
Voilà.
Ah ben c'est réconfortant quand même. Fats, son premier instrument n'avait pas été le piano, mais l'orgue.
Et oui, puisque son père était pasteur. Donc, la première chose qu'il a entendue depuis tout bébé, c'était...
C'était de l'orgue.
De l'orgue et les gospels, les chants à l'église, voilà.
Et il était à l'orgue à l'âge de 4 ans.
4 ans,
ce qui explique beaucoup de choses, en particulier que son style à l'orgue n'a rien à voir avec son style au piano.
Ouais.
Il a pris le piano un peu plus tard, mais très jeune aussi, d'ailleurs. Voici... Son premier enregistrement à l'orgue, c'est le fameux St. Louis Blues, morceau, un des morceaux les plus joués dans le jazz. Mais là, on en a une version qui sort totalement des sentiers battus. Thank you. Le grand, le gros, c'était des sobriquets quand même. Et donc, nous reviendrons sur les sobriquets dans une autre émission. Parce que alors, des sobriquets, il y en a quelques-uns.
Ah oui, même ils vivaient avec, hein.
Oui, tout à fait. Et maintenant, nous avons un peu épuisé les joies de la famille, nous allons passer au Gotha.
Car effectivement, ces gens souvent d'origine assez simple avaient un goût, mais alors prononcé, pour tous les surnoms nobiliaires. Les comtes, les ducs et les princes, et allez donc.
Et là, nous allons commencer par l'impératrice.
Eh oui, rien moins.
L'impératrice du blues, c'était naturellement
Bessie Smith.
Et voici un morceau qui est d'elle. On ne sait pas ça, mais Bessie Smith a composé des morceaux, paroles et musique d'ailleurs, et des morceaux qui ne sont pas du tout évidents. Celui qui vient là, qui s'appelle Young Woman's Blues, le blues de la jeune femme, eh bien, c'est un morceau qui est original d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de chorus. C'est un morceau qui est d'un seul tenant d'un bout à l'autre. C'est un très beau morceau. Elle est accompagnée par son trompettiste préféré qui s'appelait Joe Smith, par Buster Bellet, clarinettiste, et par le chef d'orchestre de ces deux-là, puisque tout ce petit monde venait du même big band, Fletcher Anderson. Après l'impératrice, voici
le roi,
le king. Alors naturellement, le jazz et la musique en général ne manquent pas de king, mais celui-là, c'est le king.
C'est King Oliver.
Louis Armstrong disait, il a été mon ami, mon professeur et un grand créateur. Enfant, écoutez-nous bien, King Oliver bouffait des sandwichs au sucre, il suçait des bonbons, il a perdu ses dents très tôt. Et il a terminé dans la misère parce que sans dents, on ne peut pas faire de trompette. C'était le mot pédagogique de la planète du jazz destiné aux enfants des écoles afin qu'ils arrêtent de manger des sucreries qui leur abîment les dents. Surtout s'ils veulent jouer de la trompette plus tard.
Voilà.
King Oliver. Il a composé et arrangé avec le petit orchestre qu'il avait pas mal de choses. Et la série qui correspond dans sa production, parce qu'il y a trois grandes séries de disques chez King Oliver. La dernière est celle où il a été le mieux enregistré. Là, on profite vraiment bien de la sonorité de sa trompette, même si son neveu est deuxième trompette. On entend très bien le King qui mène son monde. Ce morceau-là s'appelle
Rhythm Club Stomp.
Après le roi, voici la reine, surnommée The Queen, comme d'autres chanteuses d'ailleurs, il faut bien le dire, mais là nous nous attacherons à ce personnage attachant.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est elle-même qui s'est surnommée la reine.
Oui, mais elle a dit que c'est un critique anglais qui l'avait fait quand même. Elle a un bon alibi.
Qui peut vérifier ?
Il s'agit de Victoria Spivey. Victoria Spivey a d'abord été très jeune, actrice de théâtre et de cinéma. Puisqu'elle a tourné dans Alléluia, qui est un des tout premiers films parlants réalisés par King Vidor et entièrement joué par des Noirs. Elle joue le rôle de la petite sœur du héros qui s'appelle dans le film Missy Rose. Mais à l'âge de 20 ans, Victoria Spivey a fait un tube énorme avec un blues qui s'appelait The Black Snake Blues. Blues dont le titre annonce des paroles peu recommandables d'ailleurs, à mon avis. Elle en a vendu vraiment énormément. Donc, elle avait un petit peu d'argent de côté et quand les vaches maigres sont arrivées sur le tard...
Il y a eu un moment où effectivement la musique originelle de jazz avait perdu de sa popularité. Et là, cette Victoria Spivey qui avait un sacré caractère, elle décidé qu'elle n'allait pas se laisser faire.
Un grand tempérament.
Et comme elle avait un petit peu de sous...
Eh bien, elle a fondé son propre label de disques. Alors c'est... C'est très amusant à voir, ce sont donc des vinyles, puisqu'on est encore dans l'époque vinylique. C'est réalisé de manière techniquement tout à fait correcte. Mais les pochettes, c'est manifestement le résultat d'une création d'elle-même, parce que c'est très amateur, mais c'est très touchant, en fait.
Et elle s'est fait aider par tout un groupe d'amis, des hommes, hein, je vous le dis tout de suite, au point qu'elle s'est surnommée « La reine et ses chevaliers ».
Oui, le disque d'où est extrait le morceau qui va maintenant venir s'appelle effectivement comme ça « The Queen and Her Knights ». Alors comme nous en étions au surnom nobiliaire, vous avez à la fois et pour le même prix la reine
et ses chevaliers.
Et ses chevaliers. En l'occurrence, un chevalier en particulier qui s'appelle Peter Chatman, mais qui est devenu très connu en Europe, où il a fini par se fixer d'ailleurs, sous le nom de...
Memphis Slim. Elle a choisi un morceau qui lui allait comme un gant. « I'm a tigress », ce qui veut dire...
Je suis une tigresse. Mais pour l'avoir rencontrée nous-mêmes et avoir un peu parlé avec elle et apprécié le personnage... C'était une gentille tigresse.
Oui, c'était pas qu'une méchante tigresse, c'était aussi une sympa tigresse.
Voilà, une sorte de tigresse sympa, t'as raison.
Yes, I'm a tigress. Don't you mess around with me. You know I'm a tigress. You better not mess around with me. If you don't like my little cubs, sure better let me be.
I like that, tigress. You know I'm no Frank Buck. Baby, but I'm still searching for game. I'm no Frank Buck. Baby, but I'm still searching for game. If you're the right kind of tigress, come on and in. And let me make you tame.
We were doing all right, but you wouldn't stay out of my den. Yes, all right, but you wouldn't stay out of my den. When I called you this morning, you only gave me a sheepish grin. My my bloodthirsty tigress. I'll never miss you when you are gone.
You're gonna miss me, baby. You're gonna miss me when I'm gone.
Meow.
Tigress, you're gonna miss me. You're gonna miss me when I'm gone. Because you'll never find another tiger to carry your wild cat on.
Maintenant, on va descendre très légèrement dans les catégories nobiliaires. On passe au duc.
Au duc. Alors, on a sauté le prince, si j'ose dire. Il y a bien quelques princes dans le jazz, mais ils sont c'est un peu des deuxièmes couteaux, malgré leur... Et en plus, prince, c'est aussi un prénom qu'on donne aux gens. Donc,
c'est prince.
Voilà, nous avons fait l'impasse sur les princes.
Voilà.
D'ailleurs, le célèbre cardinal ne disait-il pas... Roi ne puis, duc ne daigne, Rohan suit. Grand prétentieux.
Ouh là là.
Donc nous voilà au duc. Et dans le jazz, il n'y a qu'un seul duc.
Ah, c'est Duke Ellington.
Voilà. Edward Kennedy Ellington.
Faut dire qu'il avait de l'allure, l'homme. Hein.
Ouh là là. C'était un personnage totalement royal, je dirais. Nous dirons ducal, mais...
Ducal.
Il y avait une aura... Enfin, approcher d'Ellington, c'était toute une catégorie d'impression.
Il vous regardait arriver, on avait l'impression que la pièce prenait tout d'un coup une importance absolument énorme. On avait l'impression qu'on était à 50 mètres, alors qu'en réalité, on était à 4 mètres de lui. Mais...
Le regard d'Ellington, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire.
Oui, c'est vrai.
Enfin, en tout cas, Ellington, c'était Ellington. Et puis, il était totalement ducal, son surnom est amplement mérité. D'ailleurs, il se destinait à l'architecture avant de passer à la musique. C'est un programme, moi, je trouve très intéressant.
Oui, il fait partie de cette catégorie qui avait été extrêmement bien éduquée.
Ah oui, mais c'était la bourgeoisie noire de Washington.
Absolument, hein, il avait appris le piano classique comme on apprend le piano dans la méthode rose avec tous les petits-enfants de bonne famille. Hein.
Et quand les voisins venaient protester parce qu'ils faisaient trop de piano, il leur répondait « Oui, mais un jour, vous savez, je serai célèbre. » C'est bien ce qui est arrivé. Là, nous allons l'entendre dans un très vieux solo de piano. Un des premiers qu'il a enregistré. Un morceau à lui, on ne le sait pas, c'est le compositeur le plus prolifique de l'histoire de la musique après Jean-Sébastien Bach.
Impressionnant.
Hein, cette composition s'appelle Black Beauty et est dédiée à la mémoire de Florence Mills, qui était une...
Ravissante noire.
Une comédienne très très connue, qui était la figure de Harlem dans les années 20.
Et qui est morte très jeune.
Et qui est morte très jeune, d'une appendicite mal soignée, à l'âge de 26 ans, je crois. Et manifestement, il y avait quelque chose entre eux. Ellington a tenu à lui dédier un morceau. Dans un film, on le voit aussi évoquer cette mémoire.
En gros, il l'a jamais oubliée.
D'ailleurs, elle était, il faut bien le dire...
Inoubliable.
Black Beauty. Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.